Juste sur cette dernière question, bien sûr, je n'ai pas dit que tous les partis politiques portaient la même position. J'ai dit que deux grands partis politiques, le PS et l'UMP, développaient à peu près le même type de discours avec des nuances. Mais vous avez tout à fait raison, il y a des forces politiques qui défendent d'autres points de vue. Sur les révolutions arabes, les mouvements qu'il y a en Syrie, en Libye, qu'il y a eu en Libye, en Syrie, en Bahreïn, etc., ont les mêmes causes et les mêmes racines que les mouvements qu'il y avait en Égypte et ailleurs. La différence, c'est quoi? C'est que, je dirais d'une certaine manière, il y a eu avec l'Égypte et la Tunisie une espèce de divine surprise, c'est-à-dire que tout le monde est resté nous-mêmes, médusés, sans savoir quoi faire. Là, il s'organise effectivement une contre-révolution qui est qui s'appuie essentiellement du point de vue régional sur l'Arabie saoudite et qui essaye d'utiliser ces révolutions. Et c'est quand même assez étonnant que personne ne mette en avant ce paradoxe d'une Arabie saoudite qui défendrait soi-disant la démocratie en Syrie, elle qui n'a pas le début d'élection dans ce pays. Donc c'est vrai qu'il y a ça. Mais le fait qu'il y ait des ingérences, et je crois que c'est ça où il faut faire attention, ne doit pas amener à, comme font un certain nombre de gens, je respecte, à penser que les régimes qui sont en place, la Libye ou le régime syrien, seraient des régimes anti-impérialistes menés par, qu'il faudrait soutenir. Bien sûr, le régime syrien, je le dis, a joué un rôle positif dans le soutien à Hezbollah en 2006, à la résistance palestinienne, etc. C'est vrai aussi qu'une des raisons pour lesquelles il y a un acharnement américain et européen contre ce régime vient des relations entre la Syrie et l'Iran. Et en fait, derrière la Syrie, c'est l'Iran qui est visé. Mais le caractère répressif du régime est incontestable. Et l'aspiration du peuple syrien à la liberté et à la démocratie ne peut pas être sacrifiée au nom d'une vision cynique de la géopolitique. Et c'est vrai que ça oblige à défendre des positions qui sont... Enfin, moi, je ressens très bien, parce que quand j'écris sur la Syrie, je peux vous dire que j'ai des attaques de deux côtés entre les gens qui me disent « Vous défendez le régime Bachar » et les gens qui me disent « Mais vous développez exactement le point de vue des grands médias qui est de présenter ce régime comme un régime dictatorial, etc. » Mais je pense qu'aujourd'hui, si vous voulez, avant les révolutions arabes, vous pouviez être accepté en partie la question de, comment dire, d'une lecture géopolitique de la région. De dire, de toute façon, il n'y a que des régimes autoritaires. Et ceci étant accepté, personne ne dit, n'écrit que la Syrie serait un régime non autoritaire. Dans le conflit important de la Palestine et de la résistance à Israël et aux États-Unis, le régime syrien joue plutôt un rôle positif. Je pense qu'après les révolutions arabes, on ne peut pas tenir ce discours de la même manière. Voilà. Donc, mais je reconnais que c'est... Alors, ce qui est difficile, c'est que, évidemment, on est face à une campagne qui est en partie médiatique, en partie mensongère sur qu'est-ce qui se passe en Syrie, mais en partie aussi réelle, et de savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Et ma position, c'est de dire, il y a une solution aujourd'hui, c'est le plan des Nations Unies, c'est le plan d'Annan. Ça ne va pas déboucher rapidement, ça prend du temps, mais c'est vrai que la violence a diminué par rapport à il y a deux mois. C'est vrai qu'il faut poursuivre les pressions, mais la solution alternative, l'intervention militaire, c'est une catastrophe. L'intervention militaire, c'est la transformation de la c'est-à-dire c'est la transformation du conflit qui existe en une vraie guerre civile. Et c'est vrai qu'il y a un risque de transformation. C'est vrai qu'un des arguments de l'Arabie saoudite, et c'est important parce que c'est quelque chose qui peut vraiment faire déraper la révolution, les révolutions, c'est de dire le conflit dans la région, c'est un conflit sunnite-chiite, c'est un conflit Iran-pays arabe. Et ça, c'est un discours qui rencontre un certain écho et qui peut être, très, très négatif. Sur les islamistes, il faudrait là aussi intervenir très longuement sur qu'est-ce que c'est les islamistes aujourd'hui. Et bon, moi je suis pas mal la question de l'Égypte. les islamistes sont en train de se trouver confrontés, les islamistes avec les différents courants, frères musulmans, salafis, etc., à des problèmes qu'ils ne savent pas résoudre. Alors, ils peuvent effectivement utiliser le conflit israélo-arabe, mais c'est compliqué d'utiliser le conflit israélo-arabe parce qu'en même temps, c'est, disons, les frères musulmans, en tous les cas, sont plutôt, aujourd'hui, en Tunisie, en Égypte, des gens qui disent qu'il faut développer des relations avec l'Europe parce que ça, économique, nous avons besoin de l'Europe, ce qui est tout à fait vrai en termes de relations économiques. Donc, c'est un peu difficile. Moi, je les vois plus jouer sur les questions charia, pas charia, parce que ça, je veux dire, ça soulève tout de suite les passions et ça camoufle les problèmes principaux. Mais ce que je voudrais dire et qui me semble beaucoup plus important, c'est que les islamistes dans le monde arabe aujourd'hui sont en voie d'implosion. Les Frères musulmans, qui est un parti qui ressemble par certains aspects, mais je ne veux pas choquer personne, aux organisations communistes, c'est-à-dire extrêmement centralisées et extrêmement organisées, pouvaient garder ça tant qu'ils étaient dans l'opposition. Aujourd'hui, on a écrit dans mon diplomatique un article, un numéro de mai, sur les Frères musulmans. Les Frères musulmans aujourd'hui ont implosé. Implosé d'abord parce qu'ils ont, pour la première fois de leur histoire, connu 3 ou 4 scissions, mais même qu'à l'intérieur, ils n'arrivent plus à se mettre d'accord. Parce que c'est très facile de se mettre d'accord sur le mot d'ordre, l'islam ou al-hal. L'islam est la solution. Ça n'engage personne, surtout quand on ne va pas au gouvernement. Mais quand vous allez au gouvernement et que vous allez devoir gérer les affaires du pays avec ça, bon, je veux dire, la capacité de ça à répondre aux questions des gens qui sont au chômage, etc., c'est un peu... Et puis même aux questions de la démocratie. C'est-à-dire, en fait, les frères musulmans, du fait de leur présence dans l'opposition, n'ont jamais vraiment réglé la question. Et c'est pour ça, en partie, qu'on les accuse, à mon avis, à tort, de double langage. Moi, je dirais qu'ils sont divisés. À qui appartient la souveraineté ? Maintenant, plus ou moins, la doctrine des frères musulmans, c'est la souveraineté du peuple. Avant, c'était la souveraineté de Dieu. Dans la souveraineté de Dieu, le problème est de savoir qui interprète la volonté de Dieu. En général, c'est... les frères musulmans pensaient que c'était eux. Donc, effectivement, là, il y avait un... Aujourd'hui, ils ne le font pas. Mais pas parce que... Je crois que c'est aussi important pour moi. Pas parce qu'ils ont un double langage et savoir, il faudrait savoir qu'est-ce qu'ils pensent vraiment... Parce que leur propre base ne veut pas ça. C'est-à-dire, il faut bien comprendre que les gens qui votent frères musulmans aujourd'hui ne veulent pas une dictature islamiste, quelle que soit la manière dont on la définit, du type iranien ou du type afghan, etc. Les transformations qu'il y a eu dans la société égyptienne, dans les sociétés arabes, dans les mouvements islamistes, me semblent être aujourd'hui porteuses d'espoir. Alors, la démocratie, c'est un combat. C'est pas que tout va se passer bien. C'est pas que chaque chose qui va se passer, si demain il y a un gouvernement élu, frère musulman en Égypte, nous satisfera. Mais ça sera, je pense que pendant 30 ans, le discours occidental, c'était de dire c'est soit Ben Ali, soit les islamistes, soit Moubarak, soit les islamistes. En fait, Moubarak et Ben Ali ont d'une certaine manière amené les islamistes et fait de ces islamistes une force. Je pense qu'il faut faire confiance, là aussi, ce que je disais, au peuple, c'est-à-dire que les gens veulent construire leur société avec leur tradition, avec leur religion, et on sait que l'importance de l'islam dans les sociétés du monde arabe. Puis voilà, je veux dire, c'est... Y a-t-il des risques ? Oui, il y a des risques. Mais je reste convaincu que le pari de la démocratie est le bon pari. C'est comme ça qu'on peut avancer. Et j'insiste là-dessus, c'est pas la société civile face aux islamistes. Parce que ça aussi, c'est... je me rappelle, il y a quelques semaines après la victoire de Narda en Tunisie, il y a une journaliste, je crois, norvège, qui m'interviewe, etc., et qui me dit « Quelle est la réaction de la société civile ?» Et alors je me dis « Mais attendez, il vient d'obtenir 40% des voix. Si vous pensez que eux, c'est pas la société civile, et la société civile, c'est les gens qui... En fait, c'est les gens qui sont, entre guillemets, comme nous, Europe. Je ne sais pas pour minimiser le rôle, le poids des courants laïcs, démocratiques, etc. Mais c'est absurde de le présenter comme ça. Et je crois que c'est dangereux même, c'est-à-dire, si, comme certains le veulent, on transforme ce qui se passe dans le monde arabe entre une lutte fondamentale entre l'islamisme et les courants laïcs, non seulement je pense que c'est une erreur, mais les courants laïcs perdront. Parce que c'est pas ça la ligne de démarcation essentielle, contrairement à ce que les médias essayent de nous présenter, mais ça demanderait beaucoup d'autres. Juste un mot sur la. Je crois que j'ai répondu ça sur la mort de Rabin. Il y a évidemment, mais sans tomber dans la théorie du complot, il y a un courant très fort, très organisé en Israël qui est hostile à la paix. Michel en parlera sans doute. Est-ce que la mort de Rabin a été l'effet d'un complot? Je ne crois pas. Il n'y a pas besoin de complot pour savoir que les forces de droite et les attaques que la droite menait contre Rabin dans les mois qui ont précédé son assassinat pouvaient créer les conditions d'une telle action. Le problème essentiel, c'est qu'effectivement, il y a des forces importantes, les principaux partis politiques, soutenus malheureusement par la grande majorité de la population israélienne, aujourd'hui soutiennent la politique de leur gouvernement, qui n'est pas une politique de paix.